Sylvain Attal, bonsoir.
Bonsoir Pierre et bonsoir à tous. Et
comme chaque semaine avec vous sur Radio Shalom, on va essayer de tenter de comprendre comment va le monde. Et bien évidemment, ce soir, on va revenir sur le terrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Un attentat avec un meurtre par décapitation, Sylvain Attal.
Oui, nous sommes encore en pleine sidération devant une telle barbarie. Il y a l'émotion légitime, bien sûr, il y a la colère qu'on partage tous. Et aussi la peur, puisque on a le sentiment qu'il y a une cinquième colonne, en fait, un vivier de plus en plus important de candidats à la violence terroriste. Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP, parle d'une pyramide islamiste, avec au sommet, si vous voulez, les auteurs des attentats et une base de plus en plus large de complices directs ou indirects qui rendent ces attaques possibles. Et toujours selon l'IFOP, environ un quart des musulmans de ce pays, de la France, adhèrent aux positions de l'islam radical. Donc, ça veut dire que c'est une minorité, fort heureusement, mais c'est une minorité très importante. Ça représente donc plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent, à un moment ou à un autre, prêter main forte à une action terroriste. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Conflans, où on peut parler, tout le monde le voit maintenant, de véritables complots mêlant un jeune en perte de repère, l'assassin, qui vraisemblablement serait sans doute parti faire le djihad en Syrie il y a encore quelques années, un parent d'élève, un prédicateur politisé, même quelques collégiens qui ont été, comble de l'horreur, achetés pour désigner le professeur à l'assassin, même si l'enquête devra déterminer ce qu'il savait exactement du véritable dessein de cet assassin. Alors aujourd'hui, les nouveaux djihadistes n'ont plus besoin de l'infrastructure de l'État islamique ou d'Al-Qaïda pour préparer et mettre en œuvre leurs attentats. Ils ont dans la population suffisamment de soutien de toutes sortes, matériel, logistique et même intellectuel, un peu comme ce qui s'est passé avec le terrorisme d'extrême gauche en Italie pendant les années de plomb. Ces soutiens ne sont pas tous recrutés d'ailleurs dans la population musulmane, il faut le dire. On peut compter tous ceux qui ont à un moment donné attaqué la laïcité française, exigeante certes, avec son corollaire, la liberté d'expression, de critique de toutes les religions jusqu'au blasphème, en collant à ceux qui exercent ce droit, qu'ils soient journalistes, professeurs ou simples citoyens, l'épithète infamante d'islamophobe.
Alors, on entend de plus en plus dire qu'il est temps de donner à la justice de vrais moyens de sévir contre cette nébuleuse, mais aussi contre l'immigration excessive.
Oui, on entend beaucoup de choses ces derniers jours, et c'est là le piège d'ailleurs. La colère et la peur sont souvent mauvaises conseillères, et comme à chaque fois que nous sommes attaqués au cœur de nos valeurs, dans nos chairs même, on entend toujours la même petite musique qui, au fond, voudrait nous faire renoncer à nos libertés, à de plus en plus de libertés pour plus de sécurité, ou à désigner des boucs émissaires. Alors, ça peut être le musulman, l'étranger, qui serait inassimilable par nature. On entend déjà, d'ailleurs, certaines voix pour demander la réforme de la Constitution, qui serait trop protectrice, ou bien de sortir des traités européens qui encadrent, vous savez, le droit d'asile. On oublie un peu vite quel était le profil de nombre de ces héros du quotidien qui continuaient de faire tourner un minimum le pays pendant le confinement. Bref, on pointe la question aussi de l'anonymat sur les réseaux sociaux, alors que dans cette affaire, toutes les menaces proférées l'ont été complètement à visage découvert, de manière ouverte. On voudrait pouvoir maintenir sous écrou les condamnés pour terrorisme qui ont purgé leur peine, ou tous les fichiers S, alors qu'on sait que tous les fichiers S ne sont pas pour radicalisme islamiste. Alors que, ne serait-ce que dans les deux derniers attentats à Conflans ou devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo, les auteurs étaient, comme on dit, sous les radars. Les mesures sécuritaires sont importantes, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On peut enfermer arbitrairement, expulser massivement des étrangers. On se rendra compte, malheureusement, que l'ennemi est en nous-mêmes. La réponse est aussi, j'ai envie de dire, surtout morale et culturelle. Il faut réaffirmer partout les principes de la laïcité, le primat des valeurs républicaines sur les convictions religieuses. Il faut expliquer, il faut éduquer inlassablement, ne rien lâcher face à ceux qui prônent les accommodements et les affaissements.
Sylvain Attal, diriez-vous que l'islam est un problème ?
Ah, bien sûr que non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Ce dont je parle ne se recrute pas d'ailleurs que parmi les croyants musulmans et loin de là. L'imam de Bordeaux, le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, d'autres ont été impeccables dans leur réaction. Mais je relève que ce dernier, Shamseddine Hafiz, a aussi dit qu'en condamnant le terrorisme comme il l'a fait, il mettait sa vie en danger. On ne pouvait mieux rappeler que les musulmans sont aussi les premières cibles des fondamentalistes. Et c'est vrai dans le monde entier. À partir du moment où ils ne rentrent pas dans le salafisme, quand ils sont sécularisés, qui font passer la loi commune avant la charia. Et c'est exactement pour cette raison que si on veut vraiment protéger les musulmans français, on ne peut le faire qu'en défendant la laïcité de façon sourcilleuse et non pas avec des accommodements, comme je le disais, qui ne sont pas une façon de se montrer tolérant, ouvert et libéral, comme le pensent certains, mais simplement des marques d'abdication devant les oukases islamistes. Avant d'être élu, Emmanuel Macron, la vidéo circule en ce moment sur les réseaux sociaux, qui défendait à l'époque une vision édulcorée de la laïcité, disait que ceux qu'il appelait les laïcistes avaient surtout un problème avec leur rapport à l'islam. Et bien, ils se trompaient. En fait, ce sont les islamistes qui ont une lecture littéraliste et dévoyée de la religion. On devrait aussi ouvrir les yeux sur une opinion de plus en plus répandue chez les jeunes musulmans ou non musulmans, encore une fois, selon laquelle il ne faut pas offenser les religions. Et c'est cette idée qu'il faut combattre par tous les moyens.
Les plus pessimistes, Sylvain Attal, estiment que le point de non-retour est déjà franchi. Vous faites partie de ces pessimistes ?
Il m'arrive de le penser, mais heureusement, tant je me dis que les signaux d'alarme, comme le fameux rapport Aubin, sorti il y a 17 ans, dont on reparle beaucoup ces jours-ci, ces signaux d'alarme ont été tirés depuis très longtemps et sans qu'on prenne réellement le problème à bras-le-corps. On assiste aujourd'hui à un réveil douloureux. Et comme toujours, lorsque les politiques sont en retard, il y a le risque qu'ils en fassent trop ou disons que ça parte un peu dans tous les sens. Entendre par exemple le ministre de l'Intérieur s'en prendre au rayon halal dans les supermarchés, cacher aussi d'ailleurs, m'a un peu vraiment stupéfait. Je suis aussi dubitatif, si vous voulez, sur l'interdiction du CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France. Bien sûr, je pense que ce comité joue un rôle néfaste en maintenant, j'en parlais tout à l'heure, les musulmans dans cette position de victime permanente de la République et de la laïcité. Mais en République, justement, on ne peut pas dissoudre une association simplement parce qu'elle vous déplaît idéologiquement, sans renoncer justement à nos principes au rang desquels il y a la liberté d'expression. Il faut démontrer que telle ou telle association a joué un rôle actif d'appui au terrorisme. Ce qui me paraît en revanche être sans doute le cas du collectif Cheikh Yassine qui a été dissous ou de Baraka City qui a été ou qui va être dissous, mais ça doit être établi juridiquement, sinon on ne fait que se renier. La mise en cause de l'immigration en général maintenant me paraît aussi tout à fait gratuite et très peu avisée, je crains un encouragement de la xénophobie. C'est vrai que les deux derniers auteurs d'attentats étaient des réfugiés, des enfants de réfugiés, mais j'y vois surtout une faillite de notre système d'intégration, avec, je l'ai dit, la responsabilité d'acteurs, tout ce qu'il y a de plus français, qui, au nom d'une soi-disant lutte contre l'islamophobie, assigne les musulmans dans une position victimaire et, pour reprendre le terme à la mode, entretiennent le séparatisme. Comment expliquer, d'ailleurs, le passage à l'acte de ce jeune Tchétchène présent en France depuis l'âge de 6 ans, qui était supposé donc être passé par le système d'intégration, par l'école, autrement que par une faillite du système éducatif ?
En fait, c'est un peu en contradiction avec l'hommage rendu à Samuel Paty, non ?
Ah non, on peut parfaitement rendre hommage à ce professeur sensible, intelligent, consciencieux, en soulignant les failles du système éducatif. Il y a tous ceux qui ont renoncé, il n'en faisait pas partie, mais tous ceux qui ont renoncé, qui essentialisent les musulmans pour ne pas faire d'amalgame ou pour ne pas faire de vagues, par conviction, par lâcheté. Quant à ceux qui, comme Samuel Paty, se coltinent le sujet, on voit bien qu'ils ne sont pas suffisamment armés ni soutenus. Même si, 4 jours avant son assassinat, ce malheureux professeur avait dit aux policiers qu'il n'avait pas invité les élèves musulmans à rester à l'extérieur de sa classe sur les caricatures, comme ça avait été dit dans un premier temps, il leur a quand même demandé de détourner le regard pour ne pas être choqué. Ce qui, à mon sens, était déjà une maladresse. Le rôle des enseignants, à mon avis, c'est de ne faire aucune différence entre les élèves, de leur expliquer que même si on a des convictions religieuses, philosophiques, politiques, peu importe, il faut justement, dans notre société, apprendre à être offensé, choqué et à réagir avec les moyens du dialogue, pas avec la violence. Sinon, demain, on va créer des enseignements différenciés pour ceux qui ne veulent pas apprendre la théorie darwinienne de l'évolution, la Shoah, suivre une éducation sexuelle ou artistique ou aller à la piscine. Vous voyez, bon, même chose pour ce qu'on appelle l'enseignement du fait religieux. Il faut expliquer aux élèves que l'approche historique de l'histoire des religions, de leur religion, est fondée sur le rationalisme et pas sur la foi. Et que ce que va dire le professeur n'est pas forcément ce qu'on va leur dire à la mosquée, à l'église ou à la synagogue. Bref, ça consiste à séparer drastiquement la religion de l'école, et ça s'appelle justement la laïcité. C'est une tâche absolument colossale, on s'en rend compte, les profs sont en première ligne. Ça a toujours été la noblesse de leur métier, un rôle d'émancipation par rapport à la bigoterie. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils doivent le faire en exposant leur vie, et je crois qu'il est temps de les former réellement et de les appuyer, de les soutenir.
Sylvain Attal, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, comme chaque semaine, pour tenter de comprendre avec vous comment va le monde et visiblement, il va pas si bien que ça. Merci Sylvain, bonsoir.
Merci, merci à vous.